Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Et au sommaire aujourd'hui, des enjeux, le retour des sanctions en Iran.
Et oui, cette deuxième vague du rétablissement des sanctions américaines contre l'Iran, celle qui touche le pétrole et le gaz. Le siège économique et diplomatique de Téhéran se poursuit. Washington espère toujours renégocier l'accord sur le nucléaire. Combien de temps l'Iran pourra-t-il résister? On en parle avec vous Thierry Coville, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup d'être venu ce matin. Professeur d'économie à Novantia et auteur d'Iran, la révolution invisible. Alors, cette deuxième vague de sanctions, donc, outre les hydrocarbures, elle touche 50 banques, 200 personnes et entreprises, 65 avions d'Iran Air. En tout, plus de 700 personnes. On dit que ce sont des sanctions même plus fortes qu'en 2015, en fait.
Oui, alors effectivement, c'est le discours officiel du gouvernement américain qui dit qu'il a justement ajouté des listes d'entreprises et ils préparent d'autres sanctions. Donc leur idée, c'est qu'effectivement ils remettent en place les sanctions suspendues à partir de début 2016 et en plus ils ajoutent des entreprises qui sont sous embargo, des listes, et puis ils ont annoncé également, je crois que c'est John Bolton, le conseiller la sécurité de Donald Trump, qui a dit qu'ils vont ajouter de nouvelles sanctions.
Ouais, de nouvelles sanctions à venir, oui. Effectivement. On va reparler des hydrocarbures. Juste un mot sur le timing, peut-être. Il y avait un délai nécessaire, mais c'est vrai que c'est un moment qui coïncide avec l'anniversaire 39e de la prise d'otage de l'ambassade de Téhéran. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un sens du timing de Donald Trump ou simplement une mécanique implacable, on va dire?
Non, c'était, je crois que ça correspond aux dates, hein. C'est les sanctions américaines, à partir de sa décision de sortir de l'accord, les sanctions américaines seraient établies entre trois et six mois. Donc, on tombe complètement, effectivement, sur le timing officiel côté américain. Mais c'est vrai que ça fait une résonance particulière avec cet anniversaire de la prise de l'ambassade, qui est très symbolique, mais pas que symbolique en Iran. Faut rappeler quand même, avec la prise de l'ambassade par ses étudiants, qui sont au début même pas soutenus par Roméni, c'est Roméni après qui les soutient. En fait, on a une fracture, enfin, un tournant radical dans la révolution iranienne qui devient anti-américaine. Donc, c'est vraiment, les Iraniens ont célébré, si vous voulez, oui. ce jour qui est à la fois un jour nationaliste, qu'ils prennent en otage. Enfin, ils prennent d'assaut l'ambassade. Et puis, c'est également l'anti-américanisme qui reste quand même aussi un peu le fond de commerce de la révolution iranienne.
Ouais, 52 personnes à peu près, je crois, pris en otage pendant 400 jours. D'ailleurs, c'était le début des sanctions économiques, rupture diplomatique avec Téhéran. Ce qui fait que, finalement, en tout et pour tout, vous allez pouvoir préciser, mais entre la levée des sanctions début 2016 et mai 2018, il n'y a eu que 2 ans pendant lesquels Téhéran n'a pas subi de sanctions. Donc,
Et encore, il faut aussi rappeler que les sanctions qui ont été levées à partir début 2016, c'est les sanctions prises effectivement par les Nations Unies et par l'Europe et les États-Unis et d'autres pays liées au programme nucléaire iranien. Mais pendant cette période-là, tout le reste des sanctions, notamment américaines, qui ont été prises, comme vous l'avez rappelé, depuis la révolution iranienne, à cause de ce qu'ils appellent les activités terroristes de l'Iran, à cause des problèmes des droits de l'homme, etc., ont été maintenues. Ce qui a expliqué notamment que, par exemple, les banques européennes ont refusé de revenir, même alors que les sanctions liées au nucléaire iranien étaient levées depuis début 2016, parce qu'elles avaient encore peur de toutes ces sanctions.
Oui, effectivement. Alors maintenant, si on parle de la solidité de l'Iran, hein, on va faire micro et macroéconomie. Ce qu'on peut voir, en tout cas ce qu'on lit, c'est qu'il y a un marché des biens courants, du moins, qui est déjà très atteint, avec déjà une forte dévaluation du riyal, je crois que 70% de sa valeur. On parle de pénurie de médicaments aussi. À quel point est-ce que c'est grave pour la population, si on peut le dire grossièrement comme ça?
Alors, je pense qu'il faut faire attention parce que là, on a en gros un petit peu les effets d'anticipation. Ce qui s'est passé depuis un an, c'est que les acteurs iraniens économiques ont anticipé effectivement ces difficultés. Et donc, ça a d'abord joué sur... Si vous voulez, les Iraniens ont très peur d'une accélération de l'inflation. Donc, ils ont commencé à acheter des biens, ça vous connaissez en économie, pour se protéger contre cette future accélération de l'inflation. Donc, ils ont acheté des devises, fait que le dollar s'est apprécié de près de 300% sur le marché noir par rapport au riyal. Ils ont acheté de l'or. Ils ont acheté des terrains, donc on voit tous ces actifs dont les prix commencent à augmenter. Le problème, enfin, ce qui est assez classique, c'est qu'avec une telle dévaluation de la monnaie iranienne sur le marché noir, très clairement, le prix des importations augmente. Donc, on commence à avoir là, effectivement, une accélération de l'inflation. Donc, on est face à ce qu'on connaît bien en économie, c'est les anticipations autoréalisatrices. Mmh. On avait peur d'une accélération de l'inflation. Elle arrive, effectivement, parce qu'on avait peur d'une accélération de l'inflation. Et donc, je pense que c'est toute la question est là. C'est est-ce que l'Iran a absorbé le gros du choc? Ou est-ce qu'il va y avoir encore pire qui va s'annoncer? Quelle dynamique d'inflation va se mettre en place? Vous parliez des pénuries. Je pense qu'il faut distinguer deux choses. On va voir ce qui va se passer sur le plan macroéconomique. Bon, déjà, l'inflation commence à se rapprocher de 20%, déjà même aujourd'hui en Iran. Elle est à 16% officiellement. Donc on peut s'attendre très clairement, je crois même les Iraniens eux-mêmes font des prévisions d'inflation à 20-30%, peut-être plus. Hein. Et également, c'est la question comment c'est ressenti. Donc je pense que, entre guillemets, intéressant, je veux dire. Mais dans le cas de l'Iran, c'est que effectivement, les gens commencent à parler de pénurie de médicaments. Je pense qu'il y a une grande inquiétude en Iran, une grande inquiétude par rapport aux conséquences futures de ces sanctions.
Oui, au point que le gouvernement a décidé d'attribuer des aides d'urgence. J'ai cherché, je l'avais vu qu'une fois, l'information, 30 millions de dollars en octobre. Est-ce que c'est...
Bon, alors, c'est ça qui est difficile à faire passer en Iran. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'angoisses. Bon, d'un autre côté, j'entends la comparaison avec le Venezuela. Bon, l'Iran est un pays faiblement endetté, sa dette extérieure est faible. Il y a des réserves en devises de 100 milliards de dollars. Comme je vous l'ai dit, l'inflation était arrivée à moins de 10%, parce que l'économie était quand même mieux gérée avec Rouhani par rapport à Ahmadinejad. Donc, je veux dire, la comparaison avec le Venezuela, je pense, c'est un peu n'importe quoi. Par contre, c'est vrai, l'Iran est faiblement endetté, mais tout va dépendre de l'ampleur des sanctions.
Ouais.
Et si effectivement l'embargo pétrolier est violent, là, effectivement, on peut avoir une dynamique inflationniste sévère.
Et justement, l'embargo pétrolier, parlons-en. Donc, le but avoué des Américains, l'effet déjà obtenu, c'est d'avoir retiré du marché un million de barils.
Alors ça, j'en suis pas sûr.
Ah, je pense c'est ce qu'ils disent, en tout cas.
Il faut faire attention. Là, on retombe dans ce que je disais. Très clairement, il y a un discours. Il y a beaucoup d'inquiétudes en Iran. Il y a intérêt, entre guillemets, les émis d'Iran de nourrir ce discours en disant, voilà, en exagérant. Si vous regardez les statistiques de l'OPEP, on voit que la production, alors pour septembre, pétrolière iranienne a diminué de 150 000 barils par jour. D'autre part, vous voyez que les Américains, ils ont peut-être oublié, mais ils nous annonçaient un embargo total sur le pétrole iranien. Ils viennent d'annoncer hier qu'il y avait un certain nombre de pays à qui ils avaient donné des exemptions. Donc c'est pas aussi simple que ça.
Ouais, exemption temporaire, dit John Bolton, mais exemption quand même effectivement pour 8 pays. Alors sur ces chiffres de prévision quand même de fortes baisses de croissance iranienne qui ont été données par le FMI, notamment moins 3,6% en 2019, c'est quand même très fort. Sur quoi ils se basent? C'est une anticipation trop.
Non, on en revient. Il y a même eu des prévisions du Centre de Recherche du Parlement. En fait, ils ont fait deux scénarios et on revient. Tout est lié à l'hypothèse qu'on fait sur la force de l'embargo pétrolier. Donc, le Centre de Recherche du Parlement iranien a fait deux hypothèses. Là, ils sont à, on va dire, 2,3 millions de barils par jour d'exportation. Première hypothèse, le quart des exportations en moins. Quel scénario, on va dire, optimiste. Le scénario pessimiste, on en revenait, c'est 1 million, disons la moitié, 1 million de barils par jour en moins. Donc, ils exportent plus qu'un million de barils par jour au lieu de 2,3 millions. Et là, dans ce cas-là, effectivement, si vous voulez, dans les deux scénarios, de toute façon, il y a une récession en 2019 et une inflation qui passe entre... Alors là, vous voyez, c'est scénario optimiste et passe à entre 20 et 30%, scénario pessimiste et dépasse peut-être 30%, donc ouais. On en est à ce stade-là.
Et maintenant, si on parle en termes très concrets pour les auditeurs, j'ai pu lire que si on retirait 2 millions de barils par jour du pétrole iranien, ça équivaudrait à 50 milliards de dollars de recettes perdues, ce qui ferait un coût là quand même très sévère au pétrole iranien, même si on n'en est pas là, dites-vous.
Oui, alors c'est ça. Donc effectivement, s'il y avait un embargo total, je pense que là, l'Iran aurait beaucoup de mal. Parce que là, vous le rappelez aussi, le pétrole, c'est 80% des exportations de l'Iran. C'est 80% des recettes en devises. Donc ils perdraient 80% de leurs recettes en devises. C'est entre 40 et 50% des recettes de l'État. Donc là, effectivement, ce serait impossible à gérer.
Ouais.
Deuxième élément qui fait que c'est difficile à réaliser, c'est l'état du marché pétrolier. On sait que le marché pétrolier, d'après ce que disait le spécialiste, n'a pas les moyens de compenser 2 millions de barils en moins. Donc dans ce cas-là, on risque d'avoir une crise pétrolière. Donc il y a cet élément que doivent également gérer les autorités américaines.
Ouais, même si on dit que l'Arabie Saoudite peut produire...
Non, pas 1 million, ils peuvent compenser,
ça.
2 millions, je pense que ce sera compliqué.
Ouais, on parlait de 500 000 pour l'Arabie Saoudite. Alors si on parle très rapidement justement de cette question du contournement, économie de contournement, ça a beaucoup été évoqué, ça avait déjà été fait en 2015 avec des pays tiers importateurs comme ça se fait, des immatriculations de navires. Quel mécanisme nouveau pourrait inventer l'Iran désormais, sachant que il n'a pas beaucoup de soutien de la part des Européens même.
Alors, ils ont essayé une sorte de bourse. L'idée, c'est de vendre à des intermédiaires. Et l'idée, ces intermédiaires seraient inconnus. Donc, l'idée, c'est que des entreprises pourraient acheter du pétrole iranien sans, en gros, le dire officiellement aux États-Unis. Bon, ça me semble compliqué pour deux raisons. Parce que déjà, il semble que les Américains ont mis en place un système de recherche par des satellites. Donc, ils arrivent à déceler les cargos qui sortent d'Iran, etc. Donc, ça va être compliqué. Et deuxième élément, c'est que les Iraniens une mauvaise expérience, c'est cette utilisation d'intermédiaires, ça favorise la corruption, donc ils sont pas certains de la, entre guillemets, de la qualité, l'intégrité des intermédiaires en question, donc ça peut développer la corruption. Ils ont eu une expérience malheureuse avec Babak Zanjani en Iran, qui a promis de d'acheter du pétrole iranien et de le vendre à l'étranger, puis comme par hasard, qui a oublié plusieurs milliards de dollars dans des dépôts bancaires à l'étranger.
Ouais, 2,8 milliards de dollars et condamné à mort. Dernière question, très 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 rapidement, est-ce qu'il y a plutôt un risque de déstabilisation iranienne ou une possibilité qu'effectivement l'Iran soit amené à renégocier en bloc cet accord comme le veulent les États-Unis ?
Il faut être prudent, moi, mais je le vois pas. Franchement, je le vois pas, parce que pour l'instant, la position du gouvernement iranien, c'est de dire on a la légitimité internationale pour nous. Donc renégocier un accord qu'on a tenu, en plus s'embarquer dans une négociation dans tous les domaines, si vous voulez, ce qu'il faut voir, c'est que par exemple les Américains demandent l'arrêt du programme balistique iranien. C'est quelque part, c'est une question de souveraineté. Même s'il n'y a pas la République islamique d'Iran, à n'importe quel gouvernement iranien, il a besoin de se défendre, si vous voulez. Donc il y a des éléments dans ce que demandent les Américains qui vont trop loin, à mon avis. C'est ça. Je pense qu'on peut sortir cette crise par le haut si les Américains changeaient de ton et replaçaient les négociations dans le cadre de l'accord sur le nucléaire. Je pense que c'est un petit peu la perche qu'a tendue Mohammad Javad Zarif, le ministre des Affaires étrangères iranien, aux Américains. Mais autrement, je vois plutôt, ils maintiennent leur position, les durs vont se renforcer en Iran, ils vont pas changer leur politique régionale, et malheureusement, c'est la population qui va supporter les coups.
Et oui, on peut négocier sans confiance, mais pas sans respect, a dit Javad Zarif. Merci beaucoup, en tout cas, Thierry Coville, pour aujourd'hui.